Bonjour, je suis Christelle. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio G 101.5 FM. Je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Les Plantes Vagabondes, une émission ensemencée et cultivée par Le Plantis basée à Écuilly. Le Plantis est une association de coworking rural, collaboratif et gourmand, un lieu incontournable du nord de l'agglomération angevine. Un lieu où il se passe plein de choses. N'hésitez pas à venir découvrir Le Plantis et nous rencontrer. Je suis réflexologue plantaire et relaxologue. Je suis accompagnée aujourd'hui de Claudie, qui est ingénieure paysagiste conseil et qui se charge du tutorage de l'émission. Chaque mois, les vendredis des semaines paires, nous vous donnons rendez-vous, nous vous proposons une balade en nature à la rencontre des plantes sauvages. Au fil des saisons, nous vous invitons à vous familiariser avec elles à travers leurs légendes, leur histoire, leur mode de vie et leurs usages. Comme d'habitude, vous retrouverez la chronique « Le bonheur est dans les simples ». Aujourd'hui, c'est Claudie qui présentera cette chronique. Et elle fera sa chronique sur le solstice d'hiver. Pour cette dernière émission de l'année, nous parlons de la clématite. Comme nous sommes en période de fête de fin d'année, la clématite se prête bien à ce moment par la forme de ses fleurs souvent en forme d'étoile. Alors pour cette fin d'année, je vous souhaite plein d'étoiles, belles, brillantes, scintillantes, lumineuses et chaleureuses. Que ces étoiles vous emplissent le cœur et fassent scintiller votre vie et celle des gens qui vous sont chers. Le temps a dissipé la blonde silhouette de mes châteaux de sable aux créneaux sans danger. De ces châteaux d'enfants, j'étais la girouette quand je ne savais pas que le temps peut changer. Mais s'il peut te changer, me changer et me prendre, ma jeunesse d'hier et notre heure aujourd'hui, il n'empêchera pas la saison de nous rendre l'iris et l'anémone et le millepertuis. La jonquille au printemps, l'automne en chrysanthème, la rose de toujours, la tubéreuse blême, la sauge en plein été, l'hélébore en hiver. L'étoile clématite, en la nuit qui se sauve, la glycine de mai dont les larmes sont mauves, et ce qui te défeuille et ce qui reste vert. C'était un poème qui s'appelle « Saison » de Louise de Villemorin. Souvent, quand on parle de liane, il nous vient l'image de grandes lianes au bout desquelles se balançait Tarzan. Mais dans nos contrées, il y a aussi des lianes, sans doute moins résistante pour se balancer avec, quoique, en tout cas, très jolie à contempler. Elle grimpe sur tous les supports qu'elle trouve. C'est le cas de la clématite, dont nous allons parler aujourd'hui. Le long des routes, des voies ferrées, on peut voir la clématite grimper, également en haut des arbres et des dégringoler. Ça donne une impression de jungle, où les enfants et les grands peuvent imaginer des aventures. Tout le monde connaît les clématites, clématis, très appréciées dans les jardins. En fait, ce sont les hybrides à grandes fleurs qui sont plantés. La clématite sauvage est plus confidentielle. Pourtant, elle ne manque pas d'atouts. Vigueur, elle fleurit beaucoup. Résistance, durée de vie, variabilité des formes et des couleurs des fleurs, petites ou grandes, grimpantes ou non, ligneuses ou herbacées, fleurissant au printemps, en été, en automne ou en hiver. Bref, il y en a pour tous les goûts. Le genre clématis compte environ 300 espèces réparties surtout dans les régions tempérées du globe. La moitié de ces espèces est originaire d'Asie, dont près de 100 en Chine. Il est étonnant de voir la multitude des milieux dans lesquels on peut en trouver. Cela va des forêts humides aux steppes les plus arides. Ce qui est un atout au jardin, car, quel que soit son terrain et son exposition, on trouvera toujours au moins une clématite qui conviendra. Leurs exigences varient selon les espèces, mais toutes ne supporteront pas d'avoir les pieds dans l'eau en hiver. Un sol bien drainé est donc primordial. On dit bien souvent que les clématites n'aiment pas être cultivées en pot où elles gèlent en hiver. La clématite sauvage donne un côté naturel au jardin et on pourra la garder durant des années. Il est aussi très intéressant de planter des espèces automnales, voire hivernales, pour fleurir les saisons creuses et étonner ses voisins ou ses visiteurs. La clématite vigne blanche, Clematis vitalba, est une liane grimpant sur les arbres jusqu'à des grandes hauteurs. Elle forme parfois des tapis recouvrant la végétation environnante. De nom latin Clematis vitalba, la clématite des haies appartient à la famille des renonculacées. Étymologiquement, clématis est issu du grec clématis, avec un K, qui signifie sarment, tandis que vitalba résulte de la fusion des termes latins vitis et alba, signifiant vigne blanche. Dans la littérature botanique, elle a des noms vernaculaires très variés. Clématite vigne blanche, clématite des bois, vigne de Salomon, aubavis, aubervigne, bois à fumer, bois de pipe, cranquillier, viorne des pauvres, reine des lianes, cheveux de bonne dame, chevelure de vieillard. Chez nos amis anglais, on lui trouve des dénominations tout aussi pittoresques, comme Old Man's Beard, la barbe du vieillard, ou Traveler's Joy, la joie du voyageur. Les feuilles de la clématite vigne blanche sont opposées et composées. Elles s'articulent autour de 3 à 9 folioles ovales et pointues. Son feuillage est caduc, mais ses pétioles, en revanche, sont persistants. Ce sont d'ailleurs eux qui, par un enroulement en vrille, s'accrochent solidement au support choisi. Les fleurs de la clématite apparaissent vers juin. Les fleurs ont une teinte blanc-terne. Petites et nombreuses, elles ont 4 à 5 sépales. Elles sont disposées en panicule, c'est-à-dire en grappe, à l'aisselle des feuilles supérieures. Une fois fécondées, les fleurs produisent des fruits, les akènes. Prenant la forme de longues plumes duveteuses, elles se regroupent en boules soyeuses aux reflets argentés, particulièrement résistants face aux frimas hivernaux. Comme pour le pissenlit, elles finissent par être dispersées par le vent. On trouve la clématite des haies qui aiment la fraîcheur. Dans les forêts humides, de feuillus, près des rivières et des plans d'eau. Elle aime s'appuyer sur les arbres placés le long des haies, en lisière de bois ou sur des friches. Indigène en France, elle s'est facilement acclimatée à divers continents. Tant et si bien qu'elle est considérée comme une plante envahissante en Nouvelle-Zélande. Elle fait également partie des espèces végétales dites nitrophiles, c'est-à-dire qu'il y a souvent de l'azote dans son milieu. De manière générale, Clematis vitalba affectionne les sols caillouteux et riches, argileux et limoneux, reposant idéalement sur un sous-sol calcaire. Elle se développe aisément sur un terrain alcalin, mais craint l'excès d'acidité dès que le pH est inférieur à 6. Elle tolère une relative sécheresse de la terre. Côté exposition, elle s'épanouit pleinement dans les emplacements ensoleillés ou mi-ombragés. Si ses tiges recherchent effectivement le soleil, ses racines peuvent se contenter de l'ombre. Elle reste rustique en supportant des gelées jusqu'à environ moins 20 degrés. La clématite peut être rapidement envahissante. Et si vous êtes soucieux de l'environnement, réfléchissez bien avant de la bannir de vos espaces verts. Il vaut mieux essayer de la dompter un peu. La clématite des haies constitue un refuge de choix pour nos amis insectes. Si elle attire les abeilles et bourdons lors de la pollinisation, elle nourrit également différentes espèces de papillons, dont la lavantie des clématites. En conservant quelques pieds de clématite, vous faites un petit geste en faveur de la biodiversité. Maintenant, nous allons écouter le micro-trottoir de fin d'année, le troisième depuis la création de l'émission. Ce micro-trottoir est réalisé par Claudie lors du marché de Léon. C'est un marché de Noël de producteurs de la Casserie à Écuyer. Alors, Claudie, quelles questions as-tu posées aux gens ?
Eh bien, c'était une question un peu fin du monde en cette fin d'année. C'est-à-dire que si les personnes devaient quitter promptement leur logement, quelles plantes ils souhaiteraient emmener avec eux, sachant qu'ils n'avaient pas le droit de prendre une plante de leur appartement, il fallait que ce soit une plante d'extérieur. Et donc, vous verrez, les réponses sont fascinantes et on a récupéré une belle arche de plantes végétales.
Que tu emmènerais avec toi? T'en as qu'une?
Je pense que j'emmène l'ortie. Comme ça, je peux en manger. Et comme ça, je meurs le plus tard possible sur Mars. Voilà.
Et moi, j'amène le plantain parce qu'elle guérit de l'ortie.
Vous êtes complémentaires. Très, très bien. Et pourquoi le plantain?
Parce que ça enlève les irritations des orties, et mais je sais pas les autres bienfaits de la plante.
Et il paraît que c'est bon.
Ah oui.
Ça se mange.
Alors la plante que j'emmènerais, ça serait un poirier, parce que j'adore les poires. Voilà, tout simplement.
Très 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 bon choix, très bon choix.
Eh bien moi, ça sera du thym. Parce que le thym, c'est bon pour tout et pourquoi pas. Voilà.
C'est dur, parce que si c'était en huile essentielle, j'aurais dit hélichryse, mais l'hélichryse.
Tu peux emmener un pied
d'hélichryse. J'emmène un pied d'hélichryse alors.
Ça n'empêche pas. Après, tu peux faire de l'huile essentielle.
Voilà, donc je fais ça.
Pourquoi l'hélichryse?
Ah, parce que ça soigne tout. Et parce que moi, je suis toujours en train de me cogner. Donc, voilà, hélichryse pour les bienfaits de la plante.
Moi, j'aurais dit pareil, et du coup, là, j'ai comme une colle.
Et pourquoi
la lavande. J'adore l'odeur de la lavande. Il y a un côté où ça ramène de la bonne humeur, ça sent bon, ça rappelle le soleil, la chaleur. C'est une belle plante qu'on peut aussi transformer en huile, en tisane, en plein de choses. Ouais. De la lavande.
Là, en instantané, comme ça, j'ai combien de temps pour réfléchir?
Ce qui te vient à l'esprit.
D'accord. Celle qui me vient comme ça tout de suite à l'esprit, parce qu'elle est devant moi tous les jours, c'est la sauge. Voilà.
Et pourquoi la sauge?
Parce que je trouve qu'elle est généreuse, la sauge, elle résiste au froid. Moi, je trouve qu'elle a un goût complètement atypique qui s'associe pas qu'avec la pomme de terre, avec plein de choses. Et elle vient relever des plats d'une manière vraiment intéressante. Et puis, elle a plein de vertus médicinales. Et je me dis que ça serait une bonne alliée, une bonne compère. Voilà.
En plus, c'est la plante des femmes.
Voilà.
Et toi, est-ce que tu choisirais une plante avec toi pour t'accompagner? Tu penserais à quoi?
Comme ça, je dirais une rose. Parce que c'est basique, parce que c'est une plante connue, mais en même temps, c'est une super belle plante. Et une rose blanche, parce que c'est les roses que je trouve les plus belles.
Très, très bon choix. Merci.
Une patate, c'est ça? C'est bon? J'ai gagné.
Et pourquoi une patate alors?
Parce que c'est joli et puis on peut manger.
Et alors, et toi?
Un figuier.
Une petite gourmande.
Voilà. Et puis ça sent bon.
Une plante, une marguerite.
On l'a dit un peu plus fort.
Une marguerite.
Ah, voilà. Et pourquoi une marguerite?
Parce que j'aime les marguerites.
Eh bien moi je ramenais de l'ail.
Et pourquoi donc?
Parce que j'ai l'impression que toute ma vie il y a eu de l'ail. Et j'adore ce parfum.
J'emmènerais du thym.
Et pourquoi
le thym, parce que le thym, ça soigne plein de choses. Si t'as un rhume, s'il fait froid, si voilà, le thym, c'est la plante qu'il faut pour pour la fin du monde.
Super. Et toi, tu as une idée de plante que t'emmènerais avec toi?
Des bambous.
Des bambous. Et pourquoi il te plaît le bambou?
Je sais pas, j'aime bien la forme.
Il faut pouvoir sur plein de trucs avec, c'est vrai. Ça peut aider. Ah, merci.
De rien.
Moi, si je devais prendre une plante sur une île déserte, ce serait une aubépine. Parce que je trouve qu'elle est majestueuse, elle pique. Mais c'est la plante pionnière par excellence. C'est celle qui va ramener toutes les autres. Donc au milieu du désert, je mettrais celle-là.
En symbolique, la fleur de clématite est associée à l'acuité mentale, la sagesse, l'aspiration, les voyages et l'espièglerie. Dans l'Angleterre victorienne, la fleur de clématite symbolisait l'acuité mentale en raison de sa polyvalence et de sa capacité à grimper et à envelopper les surfaces. Comme si la clématite montrait un processus de réflexion consistant à contourner un problème afin de le comprendre. Sur le plan spirituel, la clématite encouragerait à explorer différentes philosophies dévotionnelles. La clématite démontre qu'il y a plus d'une façon de se connecter avec le divin. La clématite vous montre qu'être un chercheur éternel et un étudiant de l'univers élargira votre conscience et votre compréhension des diverses religions du monde. Toujours sur le plan symbolique, la clématite est associée à certains animaux spirituels, y compris l'animal esprit serpent et l'animal esprit cerf. Tout comme le serpent peut s'enrouler autour d'un arbre ou d'une autre surface, il en va de même pour la clématite. De plus, la façon dont cette clématite grimpe et aspire rappelle la couronne complexe des bois du cerf. Comme la clématite, le cerf symbolise la sagesse. Il n'a pas fait pousser ses bois du jour au lendemain. Ils sont le signe d'un animal mature et en bonne santé qui a résisté aux défis de la vie et à l'épreuve du temps. Si vous vous intéressez au symbolisme, je vous laisse découvrir également la symbolique des couleurs de la clématite. Il y en a plein. Une petite pause musicale maintenant.
Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. su que des mélodies pourraient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Nous parlons aujourd'hui de la clématite. La sève renfermée dans les feuilles de clématite et son écorce peut déclencher des éruptions cutanées en faisant des cloques. Si vous devez y toucher, il est préférable d'avoir des gants. Ses propriétés ulcéreuses étaient d'ailleurs largement connues des mendiants autrefois. Ils s'en frottaient allègrement les membres pour susciter la pitié des passants. Ce n'est pas un hasard si on la surnomme encore aujourd'hui « herbe aux gueux ». En dépit de son aspect vénéneux, la clématite des haies possède un réel intérêt médicinal. Dès l'Antiquité, Pline, Dioscoride et Galienne confectionnaient une macération huileuse à partir des feuilles pilées. Utilisée en emplâtre, elle luttait notamment contre les rhumatismes, les névralgies et la gale. Aujourd'hui, elle est réservée à un usage homéopathique, par voie externe sous forme de teinture mère ou de pommade, éventuellement par voie interne via des granules. Elle est très appréciée pour ses propriétés antirhumatismales, analgésiques et antinévralgiques. On la recommande notamment pour soulager les sciatiques et les lumbagos. Avec son effet vénotonique, elle constitue aussi un accompagnement de choix en cas d'ulcère variqueux douloureux. En shampoing, elle peut également fortifier les cheveux fragiles. La fleur de la clématite fait partie des 38 élixirs floraux du docteur Bach, les fameuses fleurs de Bach. Elle est conseillée aux rêveurs qui peinent à se concentrer et à garder les pieds sur terre. Elle stimule également la créativité. C'est le moment de retrouver la chronique « Le bonheur est dans les simples ». C'est Claudie qui aujourd'hui nous parle du solstice d'hiver.
Le solstice d'hiver correspond à la nuit la plus longue de l'année. Il a lieu entre le 21 et le 22 décembre de chaque année. Les êtres humains l'ont depuis des temps immémoriaux associé à la mort et à la renaissance du dieu soleil. Cette période de l'année, à l'obscurité plus présente et marquée par le silence hivernal, invite à une vie au ralenti, centrée sur des activités plus réduites. Ce passage à des jours plus longs, a, dans toutes les civilisations, été marqué par des rituels liés ou non aux religions. Les Celtes, notamment, nomment le solstice d'hiver Alban Artan. Artan signifie le dieu de l'ours et fait référence à la Voie lactée et à la petite ours qui indique le nord et nous guide dans la nuit. Plus prosaïquement, elle invite sans doute aussi les humains à hiverner comme le font les ours. Pour célébrer le retour aux jours plus lumineux, les druides celtes allument des chandelles. C'est à ce moment qu'ils récoltent de nombreuses plantes au pouvoir magique renforcé. En latin, solstice se traduit comme point immobile, car à cette période, le soleil se lève et se couche au même endroit pendant quelques jours. En symbolisme, la période du solstice est une période propice à l'introspection et au recentrage sur nous-mêmes. À l'instar des arbres, notre énergie descend dans nos racines. Nullement négatif, le solstice nous prépare à l'accueil du retour de la lumière solaire et d'un nouveau cycle de vie. Il nous permet donc de reprendre espoir. Dans la Rome antique, on célèbre la double fête solsticiale de Janus, le dieu de l'initiation, dieu des portes et des passages. Janus, le dieu à deux faces, l'une tournée vers le passé et l'autre vers l'avenir, alors que la troisième face, invisible aux non-initiés, regarde vers le présent. Le solstice marque aussi le début de l'hiver et du repos de la végétation. Ainsi, certains arbres ou plantes accompagnent sa célébration de façon symbolique ou décorative. C'est le cas de l'if, qui représente la mort de l'année passée et fait le lien avec la suivante. Les chênes, du fait de leur longévité et de leur feuillage marcescent l'hiver, symbolisent la vie éternelle et incarnent force et endurance. Pour revenir à la tradition celtique, un tronc entier est brûlé 12 heures avant le solstice. La persistance du feu jusqu'au jour du solstice est signe d'abondance et de santé pour l'année future. Le feu symbolise le soleil invaincu face aux ténèbres. D'autres végétaux au feuillage persistant sont aussi des marqueurs de la continuité de la vie pendant l'hiver, comme le lierre, le gui ou bien entendu le sapin, car ils représentent dans la tradition nordique et germanique l'axe du monde. Célébrer le solstice permet ainsi de se recentrer sur les énergies et le pouvoir de régénérescence de la nature. Si le solstice a été christianisé en devenant Noël, partout sur la planète, il fait l'objet de festivités avec des jours fériés. En ce premier quart de siècle, à l'aube de notre société hyper connectée à la technologie, célébrer le solstice prend tout son sens, car il permet de se reconnecter à notre planète et à la vie. Il est toujours possible de le célébrer tout seul ou en présence de ceux qui vous sont chers pour conserver le lien avec les rythmes de la nature et avec toutes les formes de vie sur Terre. En allumant une bougie ce jour-là, vous vous connecterez à l'énergie du renouveau et participerez à la danse de l'univers et du cosmos. Alors, qu'attendez-vous pour inventer une cérémonie qui vous ressemble dans le lieu qui vous inspire ?
Le principe toxique de la clématite vigne blanche se dissipe par la chaleur et la cuisson ou par séchage. Jadis, on savourait ainsi ces jeunes pousses cuites, bouillies dans plusieurs eaux puis dégustées telles quelles, elles finissaient parfois dans du vinaigre après avoir été blanchies pour une plus longue conservation. Les tiges de clématis vitalba, lignifiées, sont d'une grande robustesse, tout en conservant une grande flexibilité. Elles sont donc utilisées en vannerie pour la réalisation de ligatures comme l'osier. Sa souplesse est aussi utile comme lien pour les fagots. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous pourrez retrouver plein d'informations pratiques, des recettes, des remèdes dans le blog de notre site www.leplanty.fr. Vous pouvez écouter, réécouter et partager cette émission et les précédentes grâce à nos podcasts sur le site radio-g.fr. C'était Christelle et Claudie sur Radio G 101.5 FM. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année pleines de joie, d'amour et de partage. Nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier où nous parlerons de l'ISOP. À très bientôt.
Fête de fin d'année sur Radio G.
Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC.
Allez hop, direct au lit.
Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée.
Merci Axel, mon héros.
Et si on a trop bu, On attend le lendemain pour bien rentrer.
Oh, trop moelleux ton canapé.